Chapitre 2e. L'Église russe avant 1918. Notre exposé risquerait de manquer de clarté si nous ne le faisions pas précéder par quelques mots d'explication sur ce qu'était l'organisation de l'Église russe avant la révolution d'octobre 1917. Avant la révolution de février-mars 1917, l'Église se trouvait dans la dépendance directe de l'État. L'Église dominante, l'Église orthodoxe de rite oriental, jouissait de la protection la plus large de la part du pouvoir impérial. En vertu des lois fondamentales de l'Empire, l'empereur de Russie, son épouse et le prince héritier devaient appartenir à la foi orthodoxe. L'empereur était le protecteur et le défenseur de l'Église. L'État prenait une large part dans les dépenses d'administration et encourageait, sur une échelle, il est vrai, très modeste, le développement de l'enseignement ecclésiastique en ouvrant au budget des crédits de peu d'importance pour les écoles ecclésiastiques de divers degrés. Après la réforme de Pierre le Grand, qui abolit le patriarcat, l'administration suprême de l'Église appartint au très saint synode, dont les membres étaient choisis parmi les évêques orthodoxes russes et nommés par oukase de l'empereur. Toutes les décisions importantes du synode ne prenaient force de loi qu'une fois sanctionnées par l'empereur. Celui-ci était représenté auprès du synode par le procureur général, qui lui faisait un rapport sur toutes les affaires relatives au synode. Or, il est de toute justice de reconnaître qu'au cours des 50 années qui ont précédé la révolution, le gouvernement russe a manifesté, en matière religieuse, la plus grande tolérance. Une protection spéciale était accordée par la loi à l'Église orthodoxe, comme à l'Église dominante, mais toutes les autres confessions, y compris les confessions non chrétiennes, jouissaient sans restriction aucune de la liberté complète de célébrer les offices divins conformément à leurs rites et d'organiser dans les écoles l'enseignement religieux de leur culte. L'Église était entièrement libre dans sa vie intérieure et le pouvoir civil n'a jamais fait pression sur les consciences en matière de religion. Les paroisses n'avaient pas, il est vrai, avant le concile de 1917-1918, d'organisation bien définie. Mais personne n'a jamais empêché les fidèles de se réunir autour de leur église pour en prendre soin et l'entretenir. Le concours que leur prêtait l'État était plutôt de caractère moral que matériel. Dans les paroisses de village, les principales ressources du clergé consistaient en lots de terrain de 30 à 40 hectares que l'État mettait à leur disposition, en y joignant une petite subvention en argent pour l'entretien, très modeste du reste, du clergé. Toutes les autres dépenses étaient couvertes par les dons des fidèles et par le casuel. Telle était la situation de l'Église orthodoxe russe la veille de la révolution de février-mars 1917. Elle bénéficiait de la protection du pouvoir, tandis que la plus grande tolérance était accordée à toutes les autres confessions. Le gouvernement provisoire commença par proclamer, dans sa politique religieuse, deux principes. Séparation complète de l'Église et de l'État, et d'autre part, protection égale pour toutes les confessions de la liberté de conscience, libre exercice des cultes et renonciation par l'État à toute immixtion dans les affaires intérieures de l'Église. Au cours de sa brève existence, mars à novembre 1917, le gouvernement provisoire a pris à l'égard de l'Église trois mesures. L'expropriation sans indemnité des terres appartenant aux églises et aux couvents et le transfert au ministère de l'Instruction publique de toutes les écoles paroissiales, mesure préjudiciable à l'Église et qui avait un caractère nettement politique. Il a, par ailleurs, pris l'initiative de la convocation du concile pan-russe, auquel il confia la mission de réorganiser l'administration ecclésiastique et de rétablir le patriarcat, mesure des plus heureuses et d'une importance historique pour l'Église orthodoxe russe. Le principe de l'expropriation des terres appartenant aux Églises fut la conséquence de la loi générale de l'expropriation sans indemnité de toutes les propriétés foncières privées. Cette loi, en ne faisant pas exception pour les terres appartenant aux églises, provoqua une véritable panique parmi le clergé, réduit par là même au dénuement le plus complet, car les lots de terres que l'État mettait à la disposition du clergé de village constituaient sa principale ressource d'existence. Aussi, l'Église a-t-elle protesté contre cette mesure par la bouche du patriarche Tikhon, aussitôt après son élection, et celle du concile. Protestation qu'il savait d'ailleurs devoir être stérile, le pouvoir ayant passé à cette époque entre les mains des soviets. Quant à la mesure qui concernait les écoles paroissiales, elle menaçait de désorganiser un réseau étendu d'écoles primaires, dont le nombre atteignait 37 000 avec 1 800 000 élèves et qui n'étaient aucunement des écoles confessionnelles. Elles avaient le même programme que les écoles primaires ordinaires, mais avec un enseignement plus étendu des Saintes Écritures. La troisième mesure adoptée par le gouvernement provisoire, la convocation du concile panrusse, l'Omnestny Sobor, il faut le dire en toute impartialité, fut un acte de la plus grande importance et qui, si la réalisation n'en avait pas été empêchée par la chute du gouvernement après le coup d'État bolchevique du 7 novembre, aurait pu avoir sur le sort de l'Église une influence bienfaisante et décisive. Considérant que la séparation de l'État avait profondément modifié la situation de l'Église telle qu'elle existait au cours des deux siècles après la réforme de Pierre le Grand, et que par conséquent il y avait lieu de donner à la vie et à l'administration de l'Église une nouvelle organisation, le gouvernement provisoire décida de convoquer à Moscou le concile panrusse, le premier depuis 200 ans, composé de représentants de l'épiscopat, du clergé des villes et des villages et des fidèles, élus d'après un système égal pour tous. Le concile se réunit le 15 août 1917 à Moscou, au Kremlin. Chacun des 66 diocèses envoya son évêque, 2 prêtres et 3 fidèles. Les écoles ecclésiastiques, les universités et les couvents étaient représentés. Le gouvernement ouvrit, sous la signature personnelle de M. Kerensky, pour les besoins du concile, un crédit d'1 000 000 de roubles. Le président du conseil assista à l'ouverture du concile, qui se fit d'après un rite solennel spécial élaboré par le très saint synode. Le métropolite Vladimir de Kiev présidait. M. Kartachov, ministre des cultes, le nouveau poste que créa le gouvernement provisoire et qui conserva provisoirement dans ses attributions celle de l'ancien procureur général, salua le concile par une allocution dans laquelle il exposa les vues très larges et très bienveillantes du gouvernement provisoire à l'égard de l'Église orthodoxe. Le gouvernement déclara qu'il considérait le concile comme l'organe autorisé de l'Église orthodoxe pour l'élaboration du projet de loi qui devait lui assurer une complète indépendance vis-à-vis de l'État. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, devait disparaître l'institution du très saint synode et le ministre des cultes ne conserverait à l'égard de l'Église orthodoxe d'autres attributions que celles de veiller à l'application de la loi. Les travaux du concile durèrent jusqu'à la fin de l'année. Il élabora les bases de l'autonomie de l'Église orthodoxe, séparée de l'État, et prit notamment une décision de la plus grande portée pour l'Église orthodoxe, celle de rétablir l'institution du patriarcat abolie par Pierre le Grand. Dans la discussion qui eut lieu en comité spécial, on mit en avant la nécessité d'avoir à la tête de l'Église un haut prélat, ayant l'autorité nécessaire pour défendre la situation de l'Église autonome. Pour l'élection, fut ressuscité le rite en usage en 1634 pour l'élection du patriarche Joseph Ier. La discussion en assemblée plénière commença le 11 septembre. Le 28 octobre, dans le fracas de la canonnade dirigée par les bolchevistes contre le Kremlin, le métropolite de Moscou, Tikhon, qui présidait, demanda que la discussion fût close et qu'on passât à l'élection. 3 candidats furent désignés, Antony, métropolite de Kharkov, Arseny de Novgorod et Tikhon de Moscou. Les bulletins, avec leurs noms cachetés, furent déposés dans une urne devant une icône révérée de la Mère de Dieu, et le lendemain, le père Alexis, le plus vieux parmi les moines, retira de l'urne le bulletin qui se trouva être celui portant le nom de Tikhon, qui fut acclamé comme élu de Dieu. Le patriarche Tikhon était un prélat de grande piété, de grande douceur et de non moindre énergie. Il n'hésita pas à élever sa voix contre les premiers excès du pouvoir bolchevique et plus tard, soucieux avant tout de l'avenir de l'Église orthodoxe, il sut trouver les voies pour sauvegarder l'autorité entière de l'Église, malgré la tempête qui faisait rage autour d'elle, pour trouver l'appui nécessaire parmi les fidèles et pour rendre ainsi vaines toutes les tentatives de schisme. La prise du pouvoir par les bolchevistes coïncida donc pour l'Église orthodoxe russe avec une profonde modification de son organisation biséculaire et par la restauration du patriarcat. Elle fut de très près suivie par différents actes hostiles dirigés par le gouvernement soviétique contre l'Église et par l'arrestation du premier patriarche élu, Tikhon.